musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêvais d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bruno Micro. Je suis ravie de vous retrouver sur RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité liés ou non à la programmation du Centre culturel Moucronois. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, entre 13h et 13h30, sur RQC 95 FM. L'islam est l'une des trois grandes religions monothéistes dans le monde. Elle apparaît au 7e siècle en Arabie Saoudite, avec comme prophète Mohammed, considéré comme le messager de Dieu et la révélation d'un livre saint, le Coran. Le Coran ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme. Et même si l'histoire n'a pas toujours tendance à les mettre en avant, les figures féministes de femmes fortes et engagées ne manquent pas. Ni dans le Coran, ni dans les récits prophétiques musulmans. La reine de Saba, modèle de gouvernance dans l'islam, Khadija, la première personne à embrasser l'islam lors de sa révélation au 7e siècle, et la première épouse du prophète Mohammed, Aïcha, figure majeure de la politique islamiste et bien d'autres. À l'époque de la naissance de l'islam en Arabie, au 7e siècle, plusieurs dispositions étaient considérées comme progressistes. Le droit des femmes à hériter, droit de posséder des biens, droit au consentement dans le mariage et la possibilité de demander le divorce dans certains cas et l'accès à l'éducation encouragée. C'est au cours des 17e, 18e et 19e siècles qu'on assistera à la décadence de la vie politique et économique et à la dégradation des droits des femmes. L'interprétation religieuse fait que les femmes musulmanes sont exclues des sphères publiques. Et aujourd'hui, la femme dans le monde arabo-musulman est parfois encore plus discriminée et subordonnée qu'à l'avènement de l'islam au 7e siècle. Il faut aujourd'hui distinguer les textes religieux, des interprétations, des traditions culturelles locales, des politiques des États. La condition de la femme musulmane n'est pas la même que l'on se trouve en Indonésie, au Maroc ou en Afghanistan. Malika Hamidi est docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Spécialiste du féminisme musulman en Europe, elle publie aux éditions de l'Aube un ouvrage tiré de sa thèse doctorale intitulé « Un féminisme musulman et pourquoi pas ». Elle a abordé ce thème lors d'une conférence organisée par Eno Senior au Centre Marius Taquet, l'occasion pour nous de la rencontrer. Malika Hamidi est l'invitée de « Y'a pas péril » en la demi-heure. Malika Hamidi, bonjour, merci de m'accorder cette interview. Alors, votre engagement est double, à la fois scientifique et militant, si je puis dire. Vous vous définissez comme citoyenne française, musulmane et féministe. Comment définissez-vous le féminisme musulman et en quoi se distingue-t-il des autres formes de féminisme ?
Merci de votre invitation. Merci aussi de permettre, donc, à travers cette interview, de clarifier peut-être certains points qu'on n'a pas abordés ici lors de cette conférence qui est extrêmement riche en échanges et en débats. Alors, j'ai été très engagée sur le terrain pendant un certain temps, puisque j'ai appartenu à la génération qui a dû effectivement déconstruire les discriminations que nous vivions au sein de notre propre communauté de foi, mais aussi les discriminations auxquelles nous faisions face dans la société civile. Mais on va dire que ces dernières années, je suis surtout engagée au niveau académique et universitaire, où je continue les réflexions. J'arrive un petit peu au bout de mes réflexions, puisque je pense avoir tout dit à travers mes deux ouvrages, Un féminisme musulman et pourquoi pas la révolution des féminismes musulmans. Et un ouvrage à paraître, féministe musulmane, afroféministe et Complice allié, préfacé par Angela Davis, qui sort début du mois de juin. Oui, un très beau livre et qui a permis effectivement donc de rappeler que le féminisme musulman, moi je m'appuie sur la définition de Margot Badran, cette historienne américaine, qui a dit que le féminisme musulman c'est une pratique pour lutter contre toutes les formes de discrimination à partir du référentiel religieux. Donc ce sont des femmes qui, à un moment donné, ont dû se réapproprier les textes, se réapproprier l'interprétation qui est faite des textes pour déconstruire les biais sexistes, misogynes, concernant les versets relatifs aux femmes. Mais moi, ce que je rajoute à travers toute ma thèse, le travail effectué lors de ma thèse, c'est de dire que c'est une définition qui est valable dans le monde arabo-musulman, mais que dans le monde occidental, le féminisme musulman, c'est une lutte contre toute forme de discrimination, en plus dans la société civile, contre les discriminations à l'emploi, à l'éducation, comme je disais, dans, aujourd'hui dans le monde de la santé, où les femmes sont violentées symboliquement, mais aussi physiquement. Voilà.
Que répondez-vous à ceux qui considèrent que le féminisme musulman, c'est une contradiction ?
Oui, donc comme je l'ai... Oui, effectivement, c'est un oxymore. Hein. Donc, j'ai consacré une thèse à cette impensée, l'impensé musulman, le féminisme musulman, la contradiction entre les termes, où j'ai rappelé que effectivement, le féminisme est un concept qui est considéré comme une pratique pour questionner les rapports entre les genres, pour les femmes musulmanes, mais c'est une identité, un label qui a difficilement été admis. Pourquoi ? Parce que le féminisme renvoie au féminisme civilisationnel du début du siècle, où on a forcé les femmes à se dévoiler, notamment au nom du féminisme, on a fait une loi en France pour interdire le voile. Au nom du féminisme, dans les pays musulmans, les femmes devaient se dévoiler. Je rappelle l'épisode du dévoilement en 1958 sur la place d'Alger. Et puis, pour certaines féministes dites des courants mainstream, parler d'islam, de libération à travers le paradigme religieux est problématique, puisque ces mêmes féministes se sont débarrassées du religieux pour revendiquer plus de droits. Et donc, on peut comprendre que c'est un concept qui est contradictoire dans ses termes, qui peut paraître menaçant, mais qui aujourd'hui est plutôt rassurant. Et aujourd'hui, des féministes des courants mainstream, les féministes dites blanches, qui à un moment donné avaient un problème avec la question des femmes musulmanes, aujourd'hui se sentent plus rassurées. Quand on pose à plat les débats et qu'on relève les questions taboues, on se rend compte qu'effectivement, l'esprit du Coran est féministe en soi.
Oui, c'est ça. Dans votre ouvrage un féminisme musulman et pourquoi pas, vous dites que l'islam est pour vous une véritable révolution féministe, que l'islam a donné des droits aux femmes. Vous pouvez développer ?
Oui, tout à fait. L'islam a donné un arsenal de droits, le droit à l'éducation, le droit à l'héritage, le droit du témoignage, le droit politique, le droit de s'engager dans des terrains de combat. Enfin, je veux dire, il y a eu toute une série de droits auxquels les femmes, même simplement, si on prend le droit de vote, en France, que les femmes ont eu au XXe siècle dans la tradition musulmane, les femmes l'ont eu dès le départ, dès le VIIe siècle. Donc ce sont des droits qui ont été donnés aux femmes, mais qu'il a fallu se réapproprier, puisque ces droits ont été bafoués par des lectures littéralistes des textes. Et c'est ça le combat des femmes musulmanes, c'est se réapproprier l'esprit du texte, se réapproprier ces droits tels qu'ils ont été révélés, en débusquant les biais sexistes, les biais misogynes de certains savants qui ont normalisé une certaine interprétation, parfois machiste, des textes sacrés.
Vous parliez d'un âge d'or pour les femmes lors de la révélation du Coran. Au 7e siècle, vous le situez, c'est ça ?
C'est ça, entre le 7e et le 12e siècle, où les femmes ont été poètes, philosophes, artistes, des femmes ont été reines, hein, comme en Inde, des femmes qui ont été dans des positions des plus enviables que l'on pourrait aujourd'hui regarder avec un regard attristé par rapport à ce que l'on peut voir aujourd'hui, où la condition des femmes dans certains pays musulmans, au nom de l'islam, est pire que la période pré-islamique.
Et à quel moment cela a-t-il basculé avec un événement en particulier ?
La situation socio-économique, principalement le chaos socio-économique dans le monde musulman, a malheureusement amené à cette oppression des femmes.
Peut-on concilier pleinement une foi islamique et lutter pour l'égalité des genres ?
Oui, tout à fait, c'est le féminisme musulman. C'est à partir de ma foi, je revendique plus de droits parce que l'islam m'a donné des droits et je ne fais que revenir à la source.
Oui, voilà. Ça ne met pas en question certains fondements religieux pour vous.
En ce qui concerne la tradition musulmane, absolument pas.
Et quels sont les principaux malentendus autour du féminisme musulman en Europe ?
Oui, je crois que c'est vraiment les principales incompréhensions sont liées au féminisme où souvent on comprend le féminisme comme un mouvement contre les hommes. Le féminisme islamique n'est pas un mouvement contre les hommes et d'ailleurs j'ai pris l'exemple de Husni Aboud, cet intellectuel libanais qui a fait une interprétation de la sourate Marie justement pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'est appuyé sur cette sourate et on voit qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont participé à ce processus de libération des femmes. Donc ce n'est pas du tout un courant contre les hommes, ce n'est pas un féminisme contre les hommes, au contraire. Je crois que c'est principalement au départ, dans les années 2000-2005, la principale incompréhension par rapport au féminisme. Aujourd'hui, je pense qu'on est véritablement face à un mouvement que les femmes musulmanes d'Europe s'approprient. Je parle même d'un post-féminisme musulman où les femmes se revendiquent même au-delà, c'est-à-dire qu'elles n'ont même plus besoin de s'identifier comme féministes musulmanes. Elles sentent qu'elles n'ont plus besoin de justifier le port du voile ou de justifier leur appartenance à l'islam. Elles partent du principe qu'en tant que femmes, elles se battent pour les droits des femmes aux côtés de féministes d'horizons divers, et c'est ainsi.
Vous disiez également lors de la conférence que pour certaines musulmanes, le voile est un instrument féministe.
Oui, c'est-à-dire que j'ai eu lors des enquêtes de terrain lors de ma thèse, lorsque j'écrivais ma thèse, j'ai eu deux féministes qui me disaient « mais moi, mon voile est féministe, mon voile est anti-colonial ». Donc elles donnent un adjectif politique, mais politique dans le sens noble du terme, et féministe dans le sens où la femme fait ce qu'elle souhaite de son propre corps. Elle peut porter une mini-jupe comme elle peut porter un foulard. Et c'est son droit, c'est son choix. Ce sont les féministes pro-choix, comme elle le disait.
Comment analysez-vous les débats sur la laïcité en France ou en Belgique vis-à-vis des femmes musulmanes ?
Oui, je pense que là, on est véritablement... Moi, je suis quand même triste de voir l'impact des débats français sur les débats belges. La laïcité en France, c'est l'invisibilité du religieux dans l'espace public. C'est dommage. En Belgique, on est plus dans le pays du consensus. Donc, on n'a pas de loi nationale qui interdit le foulard dans les écoles. Mais on peut effectivement ressentir une certaine forme d'islamophobie au travail ou à l'école. Mais je pense qu'elle est quand même moins prégnante qu'en France.
Impossible de parler de féminisme sans aborder la question du patriarcat. Selon vous, mais j'ai déjà des éléments de réponse avec la conférence que vous avez donnée, les textes coraniques sont-ils misogynes ?
Le Coran a été révélé dans une société patriarcale et il est venu justement réformer les mentalités patriarcales. Ça n'a pas été simple, mais le texte en soi, je ne le considère pas comme patriarcal, mais effectivement, c'est la société, les sociétés pré-islamiques patriarcales au sein desquelles il a été révélé qui le sont.
C'est plutôt l'interprétation des versets, il faudrait les remettre dans leur contexte, comme vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait, oui, il y a un certain nombre de versets qu'il faut réinterpréter à l'aune du contexte. C'est la contextualisation des versets qu'il faut effectivement revoir et promouvoir. Et c'est vrai surtout pour ce qui concerne les femmes.
Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où l'islam est fortement stigmatisé, radicalisé, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe, la guerre en Iran, enfin les exemples sont nombreux. Comment représente-t-on aujourd'hui les musulmanes dans les médias et les réseaux sociaux, avec votre regard de chercheuse ?
Alors justement, mon regard de chercheuse a fait que j'ai justement rédigé un article l'année dernière sur la présence en ligne des femmes musulmanes, sur la modest fashion, où j'explique que justement les réseaux sociaux sont des outils qui permettent aux femmes d'être beaucoup plus visibles. Je crois qu'on est face à une génération de femmes qui n'a plus rien à prouver, ce n'est plus ma génération, c'est plus une génération qui a été, même si je suis moi née en France, mais c'est une génération qui a été familiarisée avec les réseaux sociaux, avec les textes, avec des parents peut-être plus éduquées, qui font qu'elles ont une conscience et une maturité politique aiguisée, une maîtrise des réseaux sociaux qui fait qu'elles changent l'image de la femme musulmane.
Existe-t-il plusieurs féminismes musulmans différents selon les contextes culturels, géopolitiques ?
si on part du postulat que le féminisme musulman, c'est une réinterprétation des sources scripturaires, il y a un féminisme musulman. Par contre, le féminisme musulman, lorsqu'il s'intéresse aux conditions sociopolitiques des femmes, en fonction des contextes, il est différent. Le combat de la femme féministe musulmane malienne n'est pas le combat de la féministe musulmane européenne, qui ne sera pas le combat de la féministe musulmane indonésienne.
Le féminisme occidental est-il parfois excluant envers certaines femmes? Et si oui, comment y remédier?
Oui, il y a eu, lorsque la loi de 2004 a été votée en France, il y a eu des féministes d'horizons divers qui ont sollicité les féministes musulmanes en leur disant, voilà, nous sommes vos complices. D'ailleurs, c'est tout l'objet aussi de l'ouvrage à paraître le 16 juin. C'est de dire qu'il y a des féministes des courants mainstream qui se sont associés aux musulmanes en disant, pour la première fois dans l'histoire du féminisme, le droit à l'éducation va être bafoué. Et donc, c'est important que nous nous associons. Puis à côté de ça, il va y avoir celles qui vont au contraire rejeter les féministes musulmanes en disant vous êtes porteuses du symbole d'oppression. Et donc, comment osez-vous porter et vous identifier comme féministe?
Et existe-t-il des tensions entre féministes musulmanes également, entre elles?
Oui, je pense qu'en matière de réinterprétation, il y a celles qui vont débattre du verset relatif au foulard, celles qui vont dire que ce n'est pas une obligation, d'autres qui vont dire non, on n'a pas à toucher à ce verset. Sur la question du voile, sur la question queer, sur la question... sur plein d'autres questions, je pense qu'on peut aujourd'hui définir le féminisme musulman, définir des tendances de féminisme musulman. Certaines qui vont dire il faut aujourd'hui mobiliser la philosophie des droits humains. D'autres qui vont dire non, moi je mobilise le Coran. D'autres qui vont dire je mobilise la Hadith. Donc effectivement, en matière de méthode interprétative, on peut avoir différentes tentatives et tendances. Oui.
Pourquoi parle-t-on tant du port du voile? Vous disiez tout à l'heure que c'était une continuité, un prolongement du foulard finalement, issu de la religion chrétienne, juive.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Le foulard est une continuité. Je dis souvent le foulard des musulmanes et le foulard de Marie, mère de Jésus. Ce n'est qu'une continuité de la révélation chrétienne et juive. Mais effectivement, pour beaucoup, le voile est le symbole de l'islamisme politique.
Alors que le port du voile devrait être un choix pour chaque femme.
Tout à fait, exactement. Une femme est libre de le porter comme de ne pas le porter.
Le concept même de féminisme musulman dérange autant qu'il séduit et ne fait donc pas clairement l'unanimité, si je puis dire. Vous dites que tout est une question d'interprétation du Coran et des textes sacrés. Il faut aujourd'hui distinguer les textes religieux des interprétations, des traditions culturelles locales, des politiques et des États. La condition de la femme musulmane, il faut bien l'avouer, n'est pas la même que l'on trouve en Indonésie, en Iran, au Maroc ou en Afghanistan.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le combat de l'iranienne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le combat de la femme iranienne marocaine pour une relecture du code du statut personnel ne va pas être le combat de la femme malienne ou de l'Afrique subsaharienne qui va se battre pour le droit à être éduquée, pour l'alphabétisation, la lutte contre le djihadisme, qui ne va pas être le combat des femmes féministes musulmanes européennes ou occidentales qui se battent principalement contre des discriminations sociopolitiques.
Comment voyez-vous l'évolution du féminisme musulman, par exemple, dans les 10 prochaines années? Quels sont, selon vous, les grands défis des féministes musulmanes?
Je crois qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins de féminisme musulman, puisque c'est une génération de femmes qui a acté le fait qu'il est possible de réinterpréter les textes, mais qu'aujourd'hui, les grands challenges vont être plus sur le droit, en tout cas. Je ne peux pas me prononcer sur les féministes musulmanes dans le monde musulman, mais pour celles qui vivent en Europe francophone, le vrai combat, ça va être de lutter contre l'islamophobie genrée.
Qu'aimeriez-vous transmettre aux jeunes femmes musulmanes d'aujourd'hui ?
Ce que j'aimerais transmettre, c'est effectivement de continuer de lire, de se réapproprier les textes, de les méditer, de les réfléchir, de réfléchir le contexte dans lequel elles vivent et d'être alignées dans ce en quoi elles croient et des combats qu'elles veulent continuer de mener.
Avez-vous déjà dû faire face à des intimidations, à des menaces suite à vos recherches?
Non. Non, aucune.
Vous concluez votre...
Non, je vais demander, mais
oui,
non,
mais non.
J'ai de la chance.
Voilà.
Généralement, les gens viennent débattre...
C'est ça.
Ouais. J'ai cette chance d'avoir des personnes qui viennent débattre et si elles ne sont pas d'accord, elles le disent, mais je ne me suis jamais fait agresser physiquement ou reçu des mails d'intimidation.
Est-ce qu'il y a une question récurrente qui revient à chaque conférence que vous faites sur le féminisme musulman?
La question du voile.
Oui, tout à fait.
On est encore parti pour 20-30 années.
Vous concluez votre conférence avec ces mots, vous ne remettez nullement en question la sacralité du Coran, cette communauté d'intellectuels musulmanes, mais bien l'interprétation qui en est faite.
C'est ça, c'est-à-dire que lorsque vous ne remettez pas, alors en fait ce n'est pas moi, hein, qui ne remet pas en question la sacralité, mais ce sont les intellectuels musulmanes que j'ai présentés. Voilà. Elles ne remettent pas en question la sacralité des textes, puisque lorsque vous remettez en question la sacralité des textes, alors la marge de manœuvre en matière d'interprétation est plus large. Mais quand vous considérez que c'est la parole de Dieu, et elle, c'est ce qu'elle considère, alors l'interprétation est plus compliquée. Par contre, il est possible de réinterpréter le fiqh, puisque c'est une construction humaine.
Faire ce genre de conférence, c'est pour vous, enfin, ça représente pour vous une certaine mission, quelque part, d'expliquer à des communautés différentes ce qu'est le Coran, ce qu'est l'islam, pour qu'il n'y ait pas toutes ces stéréotypes, ces clichés.
Je suis là en tant qu'intellectuel engagé. Je ne suis pas là pour mener une mission. Je viens là en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel qui a eu accès à des ouvrages, qui maîtrise un petit peu le contexte dans lequel je vis. Et je suis là parce que je suis dans le débat d'idées.
Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 19 juin, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC et celui du Centre culturel Moucronois, www.centreculturel.moucron.be. À bientôt pour un nouvel épisode.
And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine.